Studio Damani, voici nos informations en français.
Bonsoir à tous et bienvenue à la une de ce journal. Après les affrontements du week-end dernier entre le Gatia et le Assua, un calme règne toujours à Kidal, mais aucun compromis n'a été trouvé pouvant aboutir à un cessez-le-feu. La CMA estime cependant que la situation de Kidal a dépassé les petits arrangements locaux. Quant aux responsables du Gatia, ils insistent sur une gestion partagée de la ville de Kidal. Selon eux, c'est la seule solution pour aboutir à une paix durable dans la région. Au moins 17 soldats ont été tués, 37 blessés et 6 autres portés disparus. C'est le bilan du premier rapport de la commission d'enquête suite à l'attaque de Nampala le 19 juillet dernier. Selon le porte-parole du ministère de la Défense, de nouvelles dispositions ont été prises. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne a rencontré ce matin les responsables du programme d'appui au sous-secteur de l'irrigation de proximité. L'Allemagne envisage de débloquer plus de 10 millions d'euros pour soutenir la production agricole dans les 5 ans à venir. À cette quantité, à la présentation de cette édition. C'est toujours l'accalmie à Kidal après les affrontements entre le Gatia et le Assua le week-end dernier. Toutefois, aucun compromis n'a été trouvé pouvant aboutir à un cessez-le-feu, même si les responsables de la plateforme et de la CMA affirment que des tractations sont en cours pour réinstaurer le dialogue entre les deux camps. Du côté de la CMA, on estime cependant que la situation de Kidal a dépassé les petits arrangements locaux et que la question doit désormais être traitée par les mécanismes prévus par l'accord de paix. Al-Mouhag Mohamed, porte-parole de la CMA, est joint par Intala Akbilal.
Il y a beaucoup de tractations, que ce soit au niveau de la médiation à travers l'AMINUSMA, au niveau gouvernemental également, et aussi au niveau de la société civile elle-même. Mais il va de soi qu'il faut que les gens comprennent que cette situation désormais dépasse les petits arrangements locaux entre communautés ou entre personnes et situer la situation vraiment dans le cadre du suivi de l'accord et des mécanismes mis en place. Nous, en tout cas, au niveau de la CMA, on pense qu'il faut aujourd'hui se reconcentrer sur l'accord principal, qui est l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger, le respecter et désormais trancher toutes sortes de différends qui pourraient survenir pendant la mise en œuvre par les mécanismes qui sont mis en place par cet accord, notamment le comité de suivi, la CTS, les sous-comités, etc.
Les responsables du Gatia, quant à eux, insistent sur une gestion partagée de la ville de Kidal. Selon eux, c'est la seule solution pour aboutir à une paix durable dans la région. Ils estiment qu'il ne suffit pas de signer des accords, mais qu'il faut les respecter. Fahad Agal Mahmoud, secrétaire général du Gatia, joint par Intala Akbilal.
Il faudrait que les uns et les autres puissent vivre en paix et en tranquillité chez eux à Kidal et une gestion très équitable des affaires publiques à Kidal. À ma connaissance, cela n'a pas été résolu. Il y a des initiatives que je ferai pour le moment, mais ce n'est pas comme nous l'avons suggéré lors de la deuxième session du CSA. Les deux entités, l'entité Ifoat et l'entité Mouhad à Kidal, n'ont pas le choix. Elles vont s'accepter. Chacun vivra en toute dignité aux côtés de l'autre. Quels que soient les problèmes qu'ils font au passage, on a quand même des engagements à travers l'accord d'Alger, à travers les accords d'Annecy, à travers la déclaration de Niamey. Ce n'est pas les accords qui manquent, c'est leur respect. Il faut quand même garder à quelque part dans la mémoire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne veulent pas que la paix avance et ils ne sont pas neutres dans tout ce qui se passe.
Et malgré le retour au calme à Kidal, l'AMINUSMA dit avoir réaménagé son dispositif sécuritaire dans la ville pour accomplir son mandat de protection des populations. Selon la porte-parole de la mission onusienne, des détachements de la force contrôlent les principales entrées de la ville et effectuent des patrouilles pour prévenir toute reprise des hostilités. La force onusienne annonce aussi avoir facilité en début de semaine l'évacuation vers Gao de 5 représentants de la société civile et 4 enfants affiliés à la plateforme qui avaient trouvé refuge dans le camp de l'AMINUSMA craignant pour leur vie. Les tractations seraient en cours pour mettre fin aux tensions à travers le dialogue. Vous pouvez réagir à ces informations sur la page Facebook et le compte Twitter de Studio Tamani. Au moins 17 soldats ont été tués, 37 blessés et 6 autres portés disparus, sur le bilan du premier rapport de la commission d'enquête suite à l'attaque de Nampala le 19 juillet dernier. Selon le porte-parole du ministère de la Défense, de nouvelles dispositions ont été prises pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Plus de 500 hommes, 100 véhicules et des équipements ont été déployés dans la localité. Ablaye Sidibé, porte-parole du ministère de Défense et des Anciens Combattants, au micro de Samba Doumbia.
Il est important que les éléments d'information soient portés à la connaissance de l'ensemble de la population malienne. Le rapport d'enquête diligenté sur le terrain le 24 juillet à la suite des événements douloureux de Nampala a établi un bilan qui fait état de 17 morts, 37 blessés et 6 portés disparus. Des dispositions ont été prises pour renforcer aujourd'hui le poste de sécurité de Nampala, qui va devenir un véritable camp militaire. Actuellement, nous avons un GTIA qu'on peut déchiffrer comme Groupement Tactique Interarmes, un peu plus de 500 hommes avec plus de 100 véhicules. L'armée reste déterminée à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, y compris à Nampala. Si on décrédibilise la hiérarchie militaire aux yeux des soldats, on contribue à défaire les forces morales de l'armée. Et si les forces morales sont à plat, quel que soit l'équipement que vous donnerez aux soldats, l'effet sera nul.
Sur un autre sujet, les députés de la commission de suivi et d'évaluation du processus de déguerpissement ont organisé ce matin une série de rencontres avec les acteurs de l'opération. La série d'écoute a débuté avec le gouverneur, suivi du maire du district, le syndicat national des commerçants détaillants et la chambre de commerce et de l'industrie du Mali. Trois ministres du gouvernement, dont celui du commerce, de l'urbanisme et la sécurité, seront également attendus demain vendredi. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne a rencontré ce matin les responsables du programme d'appui au sous-secteur de l'irrigation de proximité. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la préparation de la prochaine phase du programme PASIP qui vise à aider les agriculteurs de la région de Sikasso, Mopti, Tombouctou et Gao. L'Allemagne envisage de débloquer plus de 10 millions d'euros pour soutenir la production agricole dans les 5 ans à venir. Dietrich Becker est l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. Allemagne au Mali. Il est au micro de Omar Oegalo.
Nous avons, avec les programmes PASIP, les programmes d'irrigation de proximité, un programme clé pour l'avenir du Mali et pour la coopération germano-malienne, pour améliorer leur vie et aussi exploiter les fleuves. La richesse du Mali, ça c'est le fleuve Niger. Et les fleuves, il faut vraiment mettre en valeur le fleuve Niger pour la croissance. Il y a une forte croissance de la population du Mali. Pour les alimenter, il faut vraiment maintenant mettre en œuvre l'eau du fleuve Niger. Et ça, c'est le programme d'irrigation de proximité. Il s'agit de la réhabilitation des périmètres irrigués qui sont dégradés pendant l'occupation des terroristes. Mais aussi, nous pensons avec des financements ajoutés que nous avons à travers des programmes Un monde sans fin. En plus, avec lesquels on peut aussi mettre en valeur des autres périmètres irrigués. On peut peut-être aussi lancer un programme pareil dans la région du Gao.
Le lancement de la campagne de reboisement 2016 est prévu ce samedi 6 août à Tienfala, dans la région de Koulikoro. Les organisateurs prévoient cette année la plantation de plus de 70 000 hectares de tout type de plantation sur toute l'étendue du territoire. Ils envisagent également la plantation de 2 hectares dans la forêt classée de Tienfala. Biramou Sissoko, directeur national des eaux et forêts, au micro de Ousmane Diko.
Nous allons procéder au lancement officiel de la campagne de reboisement couplée au lancement des activités La Grande Muraille Verte. Il est aussi prévu au cours de cette campagne la plantation de 70 264 hectares, tout type de plantation. Il y a également qu'on a prévu dans le cadre de la campagne de reboisement la fixation de 435 hectares, n'est-ce pas, de dunes, qui vont être fixés en même temps de façon mécanique mais aussi de façon biologique. Il y a 2000 mètres linéaires de dispositifs de lutte anti-érosive, n'est-ce pas, et l'enrichissement de forêts classées pour 18 000 hectares. La sécurisation des plantations constitue un élément essentiel, n'est-ce pas, des reboisements.
Parlant de sport, le Mali est qualifié pour la phase finale de la CAN féminine après la disqualification par la CAF de la Guinée équatoriale. La compétition est prévue entre novembre-décembre 2016 au Cameroun. Le Mali sera également présent aux Jeux olympiques de Rio 2016 qui démarrent demain vendredi avec 6 représentants.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Actualité régionale, des champs de culture de plus de 19 hectares ont été inondés à Farakoto, dans la commune de Logo, dans la région de Kaï. La forte pluie d'hier nuit a submergé entre autres 10 hectares de riz, 4 hectares de maïs, 5 hectares de légumes, plusieurs pieds de mangue, d'orange, de papaye, de banane ont été aussi noyés. Plus de 33 millions de francs CFA seront investis pour la réalisation de la maternité de Kao dans la commune urbaine de Koulikoro. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu hier. L'infrastructure sanitaire va comporter une salle d'accouchement, une salle de travail, une pharmacie, une salle de garde, une salle de consultation prénatale et 3 toilettes. Ce bâtiment est financé à travers le jumelage entre la commune urbaine de Koulikoro et les villes européennes de Bus en Allemagne et de Quetigny en France. Un atelier régional d'information et de sensibilisation sur les dispositions du Code des collectivités territoriales concernant les autorités intérimaires a été organisée hier à Gao. Les chefs de service, les autorités militaires, les notables et la société civile ont pris part à cette rencontre. L'atelier a été organisé par l'ONG Accor et financé par l'USAID. Dans un instant, ce sera le Grand Dialogue. Bonsoir, c'est de Fumba.
Bonsoir.
Alors, c'est ça, vous allez parler de l'approvisionnement de Bamako et environ en eau potable.
Tout à fait, c'est tout canté. Dans le Grand Dialogue de ce soir, nous allons évoquer un sujet qui préoccupe beaucoup d'habitants de la capitale, l'approvisionnement de Bamako et environ en eau potable. C'est à la faveur du 10e anniversaire du réseau des journalistes pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Pourquoi l'approvisionnement de certains quartiers en eau potable reste encore difficile? Qu'est-ce qui provoque les coupures intempestives répétées? Quelles sont les mesures envisagées à ces questions et à bien d'autres? Vont répondre nos invités du jour qui sont au nombre de 5. Bakary Koulibaly de la SOMAPEP, Abdelkarim Kone de la SOMAGES, Youba Konaté de RGPA, c'est donc le réseau des journalistes pour l'eau potable et l'assainissement, et Burema Tabalaba, qui est donc du CNCPA.
Merci et très bon débat. À tout de suite pour le magazine.